Je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
Libre Radio, la radio qui ne se fait aucune illusion. www.libradio.org. Voilà, donc c'est la Comète à la Valane. Nous sommes dans les conditions du direct ce samedi 12 août depuis l'Almacène. L'Almacène, c'est une salle qui se situe et qui est le siège de la Bibliothèque du Peuple et qui se situe au 6 rue des Grottes, en plein cœur des Grottes, à Genève, derrière la gare Cornavin. Alors, nous accueillons pour la suite de cette émission Soline Auffray. Bonjour à toi, Soline.
Bonjour.
Bonjour. Donc, nous sommes en contact via Skype parce que tu es loin de nous et tu es, toi, la directrice du magazine du bimestriel Carotine Vaders, qui en est arrivé à son sixième numéro, si je ne me trompe pas.
Exactement, oui.
Très bien. Alors déjà, donc bienvenue, tout va bien? Est-ce que ça va pour toi? La ligne est bonne? On va pouvoir papoter?
Ouais, super.
Génial. Alors voilà, donc ce magazine, comme on l'a dit, on est arrivé à son sixième numéro. On va peut-être en quelques mots le présenter. Qu'est-ce donc Carotine Vaders?
Alors, Carotine Vaders, c'est un magazine vegan. On s'est rendu compte que en France, il n'y en avait pas du tout, enfin, nos francophones même en général. Les seuls qui y a en français se trouvent au Québec. Donc c'est vrai que nous, on n'a pas forcément un accès facile. Du coup, on a décidé de créer un magazine où on pourrait trouver à la fois pour les véganes de l'info. Donc en fait, on essaye de faire un mélange d'articles militants, donc qui dénoncent l'exploitation animale, donc sous plusieurs aspects, que ce soit l'alimentation, les loisirs, les textiles, etc. On essaye de varier pour que chaque aspect soit creusé et donc compris par exemple les non-véganes. Et aussi à côté, on offre des alternatives avec des articles recettes, des sélections mode et plein d'autres choses, même des artistes, etc. En fait, on essaye de présenter le véganisme, mais de façon simple, en fait. Montrer aux gens que c'est facile d'être vegan et que ça peut être très accessible. Il suffit juste de savoir où trouver les choses dont on a besoin.
D'accord. Alors, effectivement, je crois qu'il va falloir que l'on revienne sur la notion de vegan et de véganisme. Peut-être en quelques mots, qu'est-ce que cela indique-t-il?
Alors, le véganisme, c'est quand on refuse tous les produits issus de l'exploitation animale, donc que ce soit viande, poisson, les produits laitiers, le miel, tous les textiles provenant des animaux, donc tout ce qui est laine, cuir. Et aussi les loisirs, comme le cirque ou les zoos, ou même le fait, par exemple, d'acheter un animal en animalerie.
D'accord. Donc on peut dire du véganisme qu'il est évidemment plus qu'un régime, bien plus qu'un régime alimentaire, qu'il est une éthique, une philosophie de vie.
Oui.
Est-ce qu'on peut également dire qu'il y a une portée politique là derrière?
Oui, parce qu'en fait, il y a une lutte politique pour la libération animale. Nous, ce qu'on veut et ce qu'on essaie de faire au quotidien en étant vegan, c'est de revendiquer que les animaux ne sont pas des objets, qu'ils ne nous appartiennent pas et que du coup, ce qu'ils produisent ne nous appartient pas non plus.
D'accord.
Donc, il y a une lutte politique derrière quand même, parce que c'est un message quand même qui est assez fort et qui bouscule un petit peu les codes établis, quoi.
D'accord. Donc, effectivement, la question d'après, c'était comment tu ressens qu'autour de toi, les populations non véganes accueillent ce message-là et notamment cette notion antispéciste?
Il y a plusieurs types de réactions. Il y a les gens qui comprennent, qui sont d'accord. Après, certains passent à l'action, d'autres non. Ça dépend aussi du déclic, de la volonté de changer aussi, parce que c'est un changement quand même dans les habitudes qui est assez profond. Et après, il y a les gens qui ont une espèce de résistance, en fait, et qui vont rejeter en bloc, qui vont soit pas vouloir en parler, soit vouloir en parler, mais en étant tout le temps dans la contraction, donc sans essayer de vraiment comprendre. Donc, c'est assez varié. Après, il y a de plus en plus de gens, quand même, qui sont sensibles à ce message-là et qui ont envie de faire bouger les choses. Parce que je pense que toutes les révélations qui ont été faites, les vidéos d'abattoirs et tout ça, je pense que ça... Ça a ouvert une porte. On se sont dit peut-être que là, ça va trop loin et qu'on peut essayer d'écouter les gens qui protègent les animaux parce qu'ils ont vu la souffrance. Même s'ils le savaient quelque part, là, ils l'ont eu sous les yeux. Donc, on ne peut pas, c'est des images, en fait, une fois qu'on les a sous les yeux, on ne peut pas les oublier. Donc soit on réagit dans le déni en se disant mais de toute façon c'est normal, ça a toujours été comme ça, et voilà, ces gens-là ce sont les gens qui vont résister et qui vont pas du tout vouloir changer. Et après il y a les gens de l'autre côté qui vont se poser des questions et qui sont de plus en plus nombreux.
D'accord. C'est-à-dire que le débat arrive quand même à se frayer un chemin, même parmi les. Enfin, tu disais quand même qu'il y avait une frange de la population qui était vraiment rétive, complètement rétive, monolithiquement rétive.
Pardon?
Tu disais qu'il y avait quand même une frange de la population qui ne voulait pas entendre parler du véganisme, mais cela dit, est-ce qu'on peut considérer que le débat se ferait, arrive à se frayer de plus en plus un chemin?
Ouais, en fait, le débat, il commence à être de plus en plus public, en fait. On le voit sur, bah, par exemple, à la télévision, on voit de plus en plus de sujets sur le véganisme, sur les animaux en général, et leurs conditions de vie aussi, surtout. Et je pense que par ça, les gens, en fait, ils voient qu'il y a de plus en plus de personnes autour d'eux qui sont sensibles à ça. Du coup, ils s'y intéressent et ils sont plus ouverts à comprendre pourquoi on est vegan. Et pourquoi pas à changer, mais après ça peut être assez long. Mais c'est vrai que ouais, c'est un débat dont on entend de plus en plus parler. Même là, pendant la présidentielle, c'est vrai qu'il y avait certains candidats qui étaient pour la protection animale. Et du coup, ça prouve que si les politiques s'y intéressent et en parlent, ça prouve que les gens le placent dans leurs revendications aussi, qu'ils veulent que ça change. Et du coup, ça veut dire que c'est là, quoi. Le sujet est posé, et même s'il y a des gens qui ne veulent pas l'entendre, il y a beaucoup de gens qui veulent en parler. Même sans être végane, il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent continuer à manger de la viande, mais que les conditions d'élevage ne sont pas correctes. Et c'est déjà un pas qui fait que bah on en parle. Et ça touche des gens qui auraient pu ne jamais en entendre parler ou ne jamais se poser des questions. Donc c'est très bénéfique, ouais.
Ouais. Alors dis-moi, d'aucuns, enfin on entend ce discours-là chez quelques personnes, voilà, le véganisme serait, alors c'est un activisme, si on peut le dire ainsi, mais c'est quelque chose qui est souvent, en tout cas, rapporté comme quelque chose de radical. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette transition qui serait d'un omnivorisme qui passerait par un végétarisme pour en finir à un véganisme? Est-ce que selon toi, ça c'est une des méthodes pour, au travers desquelles, eh bien, des personnes omnivores convergeraient peu à peu vers le véganisme?
Dans la plupart des cas, c'est ce qui a été fait. Moi-même, quand je suis devenue végane, j'ai eu 2, 3 semaines de transition. Mais je pense que c'est surtout des barrières mentales qu'il faut dépasser. Je pense que c'est possible d'être végane du jour au lendemain, au niveau de la santé. Après, bien sûr, il faut être en bonne santé au départ. Parce que c'est vrai que si on est déjà un peu fragile au niveau de la santé, un gros changement, ça peut être un peu compliqué. Mais je pense que c'est faisable. Après, si on doit en passer par là, tant que la finalité reste le véganisme, je pense que c'est quand même assez raisonnable. De toute façon, tout le monde ne deviendra pas végane du jour au lendemain, ça c'est impossible et ce serait un désastre. Mais pour moi, je vois vraiment le végétarisme comme une marche vers le véganisme.
D'accord.
Et je pense que tant que le but est le véganisme, c'est bénéfique parce que la personne a déjà une idée de cheminement en fait en tête. Donc c'est déjà un grand pas.
D'accord. Peut-être pourrais-tu rappeler quels sont, selon toi, les défauts du végétarisme, ou en tout cas, si, pour peut-être pas utiliser le mot défaut, mais qu'est-ce qui est incomplet du point de vue végane dans le végétarisme?
Bah, en fait, le végétarien a envie de ne plus consommer d'animaux morts, ce qui est tout à fait respectable, mais en fait, il oublie que pour le fromage et les œufs, des animaux meurent, quoi qu'il arrive. Et en fait, on a tendance à ne pas le voir parce que c'est quelque chose qui est assez caché. Par exemple, pour les œufs, on se dit que voilà, les œufs ne sont pas fécondés, il n'y a pas de poussin à l'intérieur, donc il n'y a pas d'animaux morts. Et c'est faux, mais ça, personne ne va nous le dire parce que forcément, c'est assez rebutant pour le consommateur. Pour les œufs, par exemple, pour renouveler donc les poules, parce qu'au bout d'un moment, voilà, elles ne pondent plus, donc elles sont envoyées à l'abattoir déjà. Mais du coup, il faut renouveler cette population. Mais on ne peut pas choisir que tous les œufs fécondés seront des femelles. Du coup, les poussins qui naissent mâles, ils ne servent à rien dans l'industrie des œufs, ils servent absolument à rien. Et du coup, en général, ils sont broyé vivant ou gazé. Et c'est absolument horrible de. Moi, ça ne me serait jamais venu à l'idée, je pense que c'est comme ça pour tout le monde, de prendre un poussin comme ça et de le broyer en se disant il sert à rien. C'est quand même assez cruel et ça, on ne le voit pas. Donc, pour moi, voilà, le végétarisme, il y a ça aussi. Dans les produits laitiers, c'est pareil. Les veaux mâles ne servent à rien, donc ils partent à l'abattoir et ça nous donne de la viande de veau. Donc, en fait, c'est incomplet dans le sens où c'est un effort. Mais le fait de consommer des œufs et du lait, eh ben, indirectement, ça tue quand même d'autres animaux. Donc du coup, c'est assez. En fait, pour moi, quelqu'un qui aurait toutes les informations sur toutes les conséquences de chaque aliment et qui choisirait de rester végétarien, pour moi, il y aurait une grosse incohérence, en fait.
D'accord. Concernant le miel, c'est également proscrit dans un régime vegan.
Oui.
Oui. Alors, Aude, vas-y, saisis-toi d'un micro et on y est avec la première question.
Salut. En fait, quand tu parles genre des poussins, des veaux et tout, mais je trouve que ça touche directement le veau, mais je trouve que ça touche pas directement le poussin vu qu'il est déjà né et puis que l'œuf, ben, on le mange. Enfin, il n'est pas encore né, tu vois. Donc, j'arrive pas à comprendre ton explication par rapport aux œufs. Est-ce que tu arriverais genre à mieux te.
Ouais, je vais réexpliquer. En fait, quand ils refont les. Et, ben en fait, ils font naître des poussins pour avoir de nouvelles poules pondeuses. Et en fait, une fois que les poussins sont nés, donc ils sont sortis de l'œuf depuis 1 ou 2 jours, il me semble, en fait, ils les trient, ils choisissent, donc ils gardent les femelles pour qu'elles puissent pondre. Et d'un autre côté, ils mettent les poussins mâles dans une broyeuse. Donc
D'accord.
les poussins mâles meurent comme les veaux mâles dans l'industrie laitière, en fait.
D'accord.
Voilà, puis alors moi de mon côté, d'un point de vue antispéciste également, c'est vrai que ce qui me gêne également, c'est les dispositifs qui sont mis en place et qui finalement créent des conditions d'existence tout à fait incomplets, partielles et puis barbares concernant ces animaux-là et qu'ils sont le fruit de la toute-puissance humaine sans que l'animal ne soit en aucun cas, comment dire, laissé à ses occupations, disons, naturelles.
Exactement, mais les animaux ne devraient pas être une propriété des hommes parce que
Exactement.
c'est ce qui se passe actuellement.
Ouais, tout à fait.
Et
Oui.
c'est inacceptable parce qu'ils ont des volontés propres à vivre et à vivre correctement. Et du coup, on ne devrait pas pouvoir, en fait, imposer notre volonté comme on le fait actuellement.
Tout à fait. Concernant plein de choses, hein, le régime alimentaire de ses propres animaux, hein, on voit les farines animales comme des choses sont apparues dans le temps, hein, les farines animales pour les vaches, mais également la lumière, hein, dans les élevages, les cheminements interdits, enfin les confinements, enfin toutes ces choses-là qui sont et sans compter même la logistique et les transports incroyables auxquels on a pu assister selon quelques témoignages. Juste encore une question concernant les animaux domestiques. Ça, c'est quelque chose, selon toi, si par exemple, voilà, une personne eh bien, te dirait, moi j'ai un animal domestique, je m'en occupe vraiment très bien, on est en osmose, on fonctionne bien ensemble, j'ai l'impression d'être comment dire, à l'écoute des besoins de cet animal-là. Qu'est-ce que tu répondrais?
Moi, je pense qu'on peut cohabiter avec des animaux. Pour moi, c'est pas le souci tant qu'on essaye de leur laisser un maximum de liberté. En fait, en soi, je pense que en fait, pour moi, on n'a pas d'appartenance par rapport aux animaux. Mais étant donné qu'on a la capacité d'avoir accès à certaines ressources, je pense qu'on leur doit de leur apporter notre aide, en fait. Que ce soit pour les nourrir ou les héberger.
Très bien.
Donc pour moi, vivre avec un animal, c'est pas un problème. Mais par contre, voilà, il faut ne pas le voir comme un objet et comme quelque chose qui nous appartient.
Très bien. Une question de Philippe.
Oui, bon, justement par rapport aux animaux dits de compagnie, bon, les magasins qui ont fait commerce, c'est une chose. Et puis, je pense que la meilleure des choses pour obtenir ce genre d'animaux, c'est d'en opter à l'SPA, dans des refuges, etc. Et puis, bon, moi, je vis en communauté, on est trois, et puis, on a cinq chiens. Et on a eu une attitude envers les chiens qui était pas forcément toujours la bonne. C'est qu'on avait une grande villa, un grand jardin, et on les laissait un peu faire à leur guise, comme ils le voulaient, comme ils l'entendaient. Et dès qu'on voulait en prendre un, qu'on voulait le sortir, qu'on voulait faire quelque chose avec, et bien, en société, c'est totalement impossible. Et même qu'on a découvert qu'un des chiens était comme dépressif. Parce que l'état naturel du chien vis-à-vis de l'homme, bon, ça c'est les maîtres chiens qui le disent, c'est les professionnels qui s'en occupent, qui ont tous plus ou moins le même discours. Ben, un chien, il a besoin de cette appartenance, il a besoin de. Enfin, moi, je me suis aperçu de ça avec mon chien, et puis. En tout cas, une des femelles, le fait d'être en meute la rendait dépressive. Elle avait besoin d'avoir un humain qui s'occupe d'elle, rien que de elle, quoi.
Ça, je pense que c'est surtout une question d'habitude, en fait. Les animaux qui ont été habitués au contact humain, s'ils en ont plus, au bout d'un moment, ou plus assez, ils se sentent délaissés. Mais je pense que c'est un réflexe que même les humains peuvent avoir. C'est une question d'habitude, en fait, je pense, surtout ça. Le fait de... Parce qu'après, ça... Enfin, je sais pas, mais si quand elle était un chiot, il y avait... des humains autour d'elle qui s'occupaient beaucoup d'elle et que du jour au lendemain, elle s'est retrouvée un peu dans la meute comme ça. Je pense que c'est pas une question forcément d'appartenance, mais plus d'attachement et d'habitude en fait.
Oui, c'est-à-dire qu'elle était, c'est une, donc au départ c'était deux, c'était trois chiens, et puis il y a eu une portée, et sur la portée, il y en a qu'on a réussi à faire adopter, et d'autres, ben, qui sont restés avec nous, quoi. Et puis ce qui s'est passé, c'est que cette femelle, nous on donne toujours la même importance à chacun des chiens. Et elle s'est sentie comme délaissée parce que voilà, elle avait besoin de beaucoup plus d'attention pour elle-même, quoi, par rapport à un humain, elle avait besoin d'avoir un maître, quoi, si on peut dire ça comme ça, quoi.
Mais après, en fait, je pense que c'est de l'habitude, quoi. Si elle a l'habitude d'affection, je pense que c'est normal que s'il y en a moins d'un coup, qu'elle se sente délaissée. Mais pour moi, c'est pas une question d'appartenance, parce qu'un chien qui vivrait depuis toujours à l'état sauvage et qui se serait formé comme ça, je pense qu'il serait comme les animaux sauvages, en fait, très craintif de l'homme. Mais on a habitué les chiens à vivre avec nous, et du coup, en fait, on a. Pour moi, quand on habitue des animaux à vivre avec nous, on a une responsabilité de prendre soin d'eux et de faire attention justement à leurs besoins, que ce soit affectueux ou même basique comme la nourriture. Donc je pense que ouais, c'est surtout je pense que c'était surtout de l'habitude d'avoir des humains qui étaient toujours donner de l'attention et qui d'un coup en fait ont peut-être pris du recul et c'est normal, même nous on a ça quand une personne peut donner de l'affection et que d'un coup elle part, je pense que c'est un réflexe qui est présent dans beaucoup d'animaux, dont les humains. Donc c'est pas forcément étonnant.
Mais en même temps, mis à part ça, il y a aussi une chose qui m'étonne aussi par rapport à la laine. Les moutons, ben, ils font de la laine de manière totalement naturelle. Et puis, moi, j'ai vu des reportages sur des troupeaux qui étaient mal entretenus ou les gens s'en occupaient très très peu. Et il y avait des problèmes d'infectiosité parce que la laine, ben, ça attirait des parasites et que, ma foi, ces parasites, ben, formaient des maladies infectieuses et que certains moutons mouraient dans des conditions terribles, quoi. Donc là aussi, on a quand même une responsabilité vis-à-vis de ces animaux-là. On ne peut pas les laisser comme ça avec leur laine sur le dos, via aeternam, d'après ce que j'ai pu comprendre en tout cas. Et que du moment qu'on les tond, ben, la laine, ben, si elle peut nous servir, pourquoi pas, quoi.
Ouais, sauf qu'en fait, il faut pas oublier que si les moutons produisent autant de laine, parce que les moutons n'ont pas toujours eu besoin de nous, hein, clairement, on a commencé à les domestiquer, et c'est qu'après, on les a sélectionnés à chaque fois, ceux qui produisaient le plus de laine. Donc en fait, s'ils produisent autant de laine et si ça leur pose des problèmes, c'est de notre faute. Enfin, c'est de la faute des êtres humains en général. Hein. Et du coup, oui, on a cette responsabilité de prendre soin d'eux, comme n'importe quel animal qu'on a domestiqué. Mais en fait, le problème de l'utilisation de la laine, c'est que déjà, en premier lieu, quand c'est fait pour les vêtements qu'on peut trouver en magasin, c'est le premier objectif, c'est la rentabilité, donc la rapidité. Donc beaucoup d'animaux sont maltraités parce que faut aller vite, donc que les animaux aient mal ou pas, c'est pas un problème. Moi, j'ai vu pas mal de vidéos où à chaque fois, c'était des moutons qui se faisaient tondre et qui se retrouvaient avec des coupures à cause des rasoirs parce que la personne qui les tondait allait beaucoup trop vite. Et malheureusement, c'est la rentabilité qui veut ça. Et après, le fait d'utiliser la laine d'un animal, c'est quand même considérer que ce que produit un animal nous appartient. Et surtout que... qu'on peut se permettre d'utiliser quelque chose qui vient d'un animal comme si c'était à nous. Je pense qu'on a assez d'alternatives pour ne pas faire ça. On a le choix, on a beaucoup de matières. On peut se passer de la laine, moi je le fais, donc je pense qu'on est beaucoup à le faire aussi. Donc c'est possible. Après, le problème c'est que c'est rarement fait sur une petite... en fait, je pense que il y a très peu de personnes qui tondent leurs moutons pour les entretenir et ensuite qui récupèrent. C'est souvent le chemin inverse, c'est on veut faire des vêtements, donc on tond les moutons. Et du coup, pour trancher, moi je pense que si on peut s'en passer, il faut le faire. Mais par contre, oui, il faut prendre soin des animaux qu'on a domestiqués, comme des chats, des chiens, de n'importe quels animaux qu'on a domestiqués. Parce que s'ils en sont là aujourd'hui et si leurs conditions leur provoquent des maladies, c'est aussi de notre faute.
D'accord, alors il y a encore Aude qui va te poser une question et puis ensuite on entrera vraiment dans le cœur du sujet en parlant évidemment du numéro de Carotte Invader, si ça te va comme ça. Aude.
D'accord.
Du coup, quand tu dis que tu remplaces, que tu as trouvé un moyen de remplacement, c'est ou parce que tu l'utilises plus, enfin que tu l'utilises plus la laine, est-ce que tu la remplaces par quelque chose ou est-ce que tu t'habilles du coup un peu avec quoi?
En fait, dans les vêtements, il y a beaucoup de matières végétales. Déjà, il y a le synthétique, même si ce n'est pas l'idéal, mais pour quand on n'a pas un budget énorme, c'est un bon pas en avant. Et après, il y a beaucoup de matières végétales. Par exemple, on a tout ce qui est coton, qui de base est végétal. On a pas mal de tissus en chambre aussi.
Le lin, on fabrique des magnifiques chemises très légères pour l'été
aussi, ouais.
En lin et effectivement en chanvre, entre autres.
Oui. Et pour d'autres matières animales, comme par exemple le cuir, on trouve maintenant des alternatives de cuir très ressemblantes et qui sont faites à partir... Donc là, récemment, il y a eu de l'ananas, il y a aussi du liège, il y a des champignons, donc il y a beaucoup d'alternatives. En fait, il faut juste savoir où chercher.
Donc, en fait, l'idée, c'est de se dire que pour dans le cadre d'une transition douce qui passerait peut-être éventuellement pas au début par le régime alimentaire, mais par les habits ou par d'autres choses, par des cosmétiques, justement, qui ne soient pas issus de matière animale, eh bien, l'idée, justement, c'est de pouvoir se contre-informer, d'avoir cette information qui fait défaut pour le moment.
Oui.
Et alors, justement, eh bien, le magazine Carotte Invader est là pour ça, j'imagine, également.
Ouais, en fait, on veut vraiment que... que nos lecteurs puissent savoir où ils vont. En fait, le but, c'est que si on met le magazine entre les mains d'une personne qui ne connaisse pas le véganisme, qu'elle puisse le comprendre, ou du moins, enfin, avec un seul numéro, ça va être un peu compliqué, avec au fil des numéros, qu'elle puisse comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on devient végane? Pourquoi certaines personnes font ce choix? Mais aussi... Après, elle se rendra compte aussi de toutes les alternatives qu'il y a, puisqu'on propose tout ça. Et le but, c'est aussi que des gens qui deviennent véganes voient que c'est simple, et qu'ils aient l'information, et qu'ils se rendent compte aussi que c'est qu'une question de vigilance, il suffit de lire les étiquettes.
Ouais. Alors, pour commencer, on va d'ores et déjà annoncer le site internet du magazine, peut-être.
Oui, alors c'est carotteinvaders.jimdo.com.
Voilà, carotte, donc à l'anglais, C-A-R-O-2-T, invaders.
Non,
Non.
C'est à 2ROT.
Ah, pardon, c'est à 2ROT. Tu vois, moi aussi, je me suis mal retranscrit. Donc, c'est à 2ROT, Invaders, INVADERS.
Oui.
Et la suite de l'adresse mail.
Alors, point, ensuite, Jimdo, J-I-M-D-O, et point com.
D'accord. Alors, j'ai bien compris, c'est un bimestriel, un magazine papier et vegan. C'est quand même un gros pari, tout ça réuni en un truc, non ?
Alors, pour l'instant, il n'est pas encore papier. Pour l'instant, il n'est qu'en ligne. Mais effectivement, on prévoit de le passer en version papier très rapidement.
Et alors,
faisant une... Ouais. Oui ?
Non, je ne voulais pas t'interrompre. Continue.
Donc, on va faire une... En fait, on a tout prévu. On a tout trouvé pour le numéro papier depuis assez longtemps. On a trouvé un imprimeur avec du papier recyclé et des encres végétales. Moi, j'ai été en contact avec une agence de distribution donc qui va distribuer notre magazine en kiosque. Donc, ce serait une grande visibilité pour le véganisme. Et également, on a déjà le contenu, puisque le contenu, pour l'instant, est sur Internet, mais sous forme magazine. Donc, on a déjà tout ce qu'il nous faut. Seulement, on manque de moyens. Donc, on va faire une campagne de financement participatif sur KissKissBankBank en septembre pour justement nous permettre de payer l'imprimeur et la distribution pour le distribuer en version papier, parce que c'est vraiment notre objectif. Pour l'instant, on est sur Internet, mais c'est vrai que la version papier, c'est vraiment ce serait un vrai gain de visibilité, parce que les gens nous verraient en kiosque et donc pourraient feuilleter, voir ce qu'est le véganisme, et ce serait beaucoup plus accessible pour tout le monde.
Oui, effectivement, nous, on serait ravis, tu vois, d'en mettre à disposition dans notre petite bibliothèque du peuple qui a fait le choix justement de ne pas avoir d'internet ou quoi, mais juste des choses tangibles comme ça que l'on peut feuilleter. Dis-moi, qu'est-ce que ça implique en termes d'énergie, de travail et de coûts ? Tu viens de le dire, vous lancez justement cette campagne, et c'est également pour ça que qu'on fait cette émission-là, une campagne de soutien pour financer le magazine papier et l'ensemble de toute façon de Carotte Invaders. Mais qu'est-ce que ça implique en termes de travail supplémentaire? Justement, tu viens de le dire un peu en ébauche, hein. Il faut trouver un distributeur, il faut trouver des kiosques, etc. Ça, c'est vraiment très, très différent que le travail que vous avez fait jusqu'à présent.
Oui, c'est assez différent, surtout qu'après, nous, on aura besoin de trouver en dehors des kiosques des distributeurs. On va essayer de se tourner surtout vers les magasins véganes. Pour que l'information soit aussi dans des endroits assez simples et stratégiques pour les véganes qui puissent le trouver, parce qu'on veut atteindre bien sûr des gens qui pourraient être intéressés par le véganisme, mais aussi les véganes pour qu'ils puissent trouver l'information rapidement. Donc ça va nous demander beaucoup de boulot, on va devoir faire le magazine beaucoup plus vite pour pouvoir l'imprimer, parce qu'il y a des délais quand même. On va partir sur normalement 10 000 tirages, donc ça va être quelque chose d'assez long. Donc du coup, il va falloir qu'on soit plus rapide et que aussi on puisse prévenir. Au cas où il y a un problème, il faut qu'on soit prêt, il faut qu'on ait un peu d'avance. Et après, sur la distribution, effectivement, il va falloir qu'on fasse qu'on fasse vraiment savoir à nos lecteurs que le magazine est en kiosque, et aussi essayer d'atteindre plus de personnes comme ça.
Ouais. Alors, bimestriel, ça l'est. Bimestriel, ça va le rester?
Oui, ça restera bimestriel, parce que pour l'instant, en fait, notre magazine fait à peu près 50 pages. Et pour l'instant, c'est le timing idéal, parce qu'on est une équipe de 10 personnes. Et c'est le timing qui nous permet d'avoir des articles de qualité variés et un magazine aussi conséquent. Donc pour l'instant, on souhaite rester sur le bimestriel.
Explique-nous comment se passe l'aventure en termes d'implication des rédactrices, des rédacteurs. Est-ce que vous choisissez les thèmes en commun? Est-ce qu'ensuite chacun se partage le travail? Comment est-ce que vous vous organisez?
Alors, on travaille tous ensemble. On est tous à des endroits très différents. Donc, on n'a pas de locaux. On bosse chacun de chez nous. Et du coup, on a une plateforme d'organisation sur Internet où on est tous dessus. Ce qui se passe au début quand on conçoit un numéro, c'est qu'on parle des sujets. Donc moi, j'ai des rédacteurs qui viennent me proposer les sujets. Donc l'équipe de rédaction, on discute un petit peu, ils me proposent leurs sujets. Et ensuite, moi, je valide ou non selon comment ça va avec ce numéro-là, si je trouve que c'est en accord aussi avec le message qu'on veut faire passer. On va refuser tout ce qui est... trop agressif ou tout ce qui n'est pas, enfin tout ce qui est spéciste, du coup. Et donc, il y a un tri au début qui va s'effectuer à ce niveau-là, donc pour chercher aussi à avoir un thème un petit peu dans chaque magazine, à avoir des articles quand même qui restent dans le même thème, même si c'est des sujets variés, mais qui restent dans une cohérence. Et ensuite, les rédacteurs sont assez indépendants quand ils font leurs articles. Et au bout de... En fait, ils ont une limite de temps. Et à ce moment-là, donc ils viennent mettre sur la plateforme en commun leurs articles. À ce moment-là, après, il y a tout un travail de correction qui se fait. Donc, on a deux correcteurs. Et du coup, en fait, ils recorrigent tous les articles. Donc, moi, je les relis avec eux pour voir si tout est bon, s'il y a pas de faute. Et ensuite, vient la mise en page. Et après, on peut la publier une fois que la mise en page a été validée.
D'accord. Ça implique quand même des personnes qui sont rétribuées ou vous êtes hors salariat ?
Pour l'instant, on est tous bénévoles.
D'accord. Et ça, c'est quand même, des heures innombrables passées à travailler au magazine.
Oui, c'est assez long. Après, on essaie de se répartir le boulot selon... entre chaque membre de l'équipe, mais c'est vrai qu'il y a des choses où on ne peut pas forcément se donner le boulot. Un rédacteur ne peut pas donner son boulot à un graphiste et inversement. Donc c'est vrai que ça fait pas mal d'heures pour tout le monde, mais après on sait pourquoi on fait ce magazine. Il y a un vrai but derrière et il y a aussi le fait que personne n'est forcé à rendre son boulot. En fait, on se met juste d'accord au début du numéro qui participe ou qui participe pas pour ce numéro-là. On prévoit à l'avance. Des fois, il y a des rédacteurs qui ne peuvent pas. Et voilà, on se débrouille comme ça. Parce que le but, c'est de créer un magazine vegan qui ait de l'impact. Et c'est pas de... Parce qu'on est une entreprise, mais le but, c'est pas que ça. Le but, c'est de mener une lutte aussi contre le spécisme. Et on est tous là parce que c'est des valeurs auxquelles on croit. Et je pense que c'est ça qui fait que notre équipe, elle est aussi... qu'elle arrive à fonctionner. Ouais. C'est parce qu'on a tous l'envie de faire avancer les choses.
Ouais, on a bien compris qu'effectivement, il y a là derrière un sacerdoce, une cause en tout cas, une cause commune. Est-ce que justement l'équipe est relativement stable? Les gens qui viennent y restent. Et j'imagine, même si vous ne voyez pas matériellement, j'imagine que c'est une équipe soudée justement et qui travaille, comme tu viens de le dire, tous dans la même direction.
Ouais, au début, c'était pas simple parce que quand on a créé l'équipe, on était tous un peu, pas l'équipe actuelle, mais quand on a commencé à créer une équipe, c'est vrai qu'on était tous un peu débutants dans notre façon de faire. C'est vrai que le fait d'avoir une équipe à distance comme ça, c'est pas évident au début. On se connaissait pas parce qu'on est tous venus en étant bénévoles, donc c'est vrai que personne ne connaissait personne au début. Ça a été un peu compliqué pour, il y a eu pas mal de gens qui sont venus, qui sont repartis. Après, c'est en fait au fil du temps, c'est là que l'équipe s'est créée, l'équipe actuelle, qui est notre équipe définitive, je pense. Parce qu'en fait, on a appris aussi par rapport à la façon de gérer les choses et de gérer l'équipe, parce qu'il y a tout un travail aussi quand tout le monde est loin, d'arriver à gérer tout le monde et à réussir à ce que tout le monde se connaisse un petit peu. Parce que c'est pas évident de mettre en relation, par exemple, les rédacteurs et les graphistes. Mais c'est vrai que il faut... Parce qu'en fait, vu que des fois, il y a des... par exemple, les rédacteurs pensent à des choses par rapport à la mise en page et inversement. Et du coup, en fait, il faut que tout le monde puisse se parler et que tout le monde s'entende bien. Et du coup, c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué au début. Mais maintenant, on a une équipe qui est vraiment soudée, vraiment travailleuse. Et je suis vraiment contente d'avoir cette équipe-là parce que on arrive à vraiment créer des magazines qui sont de mieux en mieux au niveau de la qualité et on le voit sur nos retours. Donc effectivement, oui, maintenant l'équipe est soudée, même si on est loin. Il y a des gens de mon équipe que j'ai jamais rencontrés en vrai. Et pourtant, on est assez soudés quand même quand on travaille par rapport au projet et on s'apprécie tous.
Très bien. Eh ben, c'est sympa de l'entendre en tout cas.
a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. 'Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
I'm not worried, I'm happy.